comme support donc le Midrash Rabbah sur un passouk qui m'intéresse. J'espère que vous intéressera aussi. Dans le passouk, c'est écrit juste après le récit du Maaseh Bereshit. Le passouk dit: Vayar Elokim et kol asher asa, vehineh tov meod. Elokim, donc c'est le nom divin qui est utilisé dans Maaseh Bereshit. Et à la fin de chaque jour, qui est décrit dans Maaseh Bereshit, enfin, sauf évidemment deuxième qui a été rattrapé après, mais vous remarquez que, bon, Hachem a regardé, il a trouvé bien, Tov. Maintenant, il a un regard sur Kol Asher Asa, Veine Tov Meod. Pas seulement Tov, mais même Tov Meod. Le Gaon de Vilna, il dit que dans la Torah, quand c'est marqué Meod, ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. À part ça, bon, pour l'instant, on n'en fait rien directement, mais les lettres du mot Meod, ce sont celles de Adam. Voilà. Et donc, je venais regarder ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a regardé la totalité et il a trouvé Tov Meod. Alors, c'est la paracha tête de Bereshit Rabba. Il existe une traduction française, je ne sais pas où elle est, dans le Beit HaMidrash, là, et quelque part, qui est publié chez Verdier, qu'on avait déjà utilisé dans d'autres Midrashim, je crois. Midrashim sur Avraham Avinu, sur Adam. Voilà. Alors, on prend le Aleph, la lettre Aleph, là-dedans. C'est Rabbi Lévi qui parle. Rabbi Lévi, Beshem, Rabbi Chama bar Hanina. Upatach. Donc, il a ouvert la discussion, il a ouvert la réflexion avec un passouk dans Michelet. Passouk qui est assez connu dans Michelet. Il dit, Kvod Elohim Aster Davar, ou Kvod Melachim Chakor Davar. C'est un passage qui dit, la gloire divine, c'est de cacher les choses, ou de cacher les paroles, la chose, le Davar. Et la gloire de Melachim, ici, le mot Melachim, il est là pour désigner la Torah. On verra pourquoi, mais c'est comme ça. Et la gloire de la Torah, c'est Chakor Davar. Creuse, réfléchis, cherche sur la chose. Donc, comme toujours dans le Midrash, en tout cas dans le Midrash Rabbah, il commence toujours par, on veut étudier un verset. Alors, quel outil est-ce qu'on va utiliser pour étudier le verset? Alors, par analogie, vous avez un objet, vous trouvez, je ne sais pas moi, un caillou ou n'importe quoi, et vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, un truc, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le soumettre à toutes sortes de traitements physiques ou chimiques. On va regarder comment il réagit quand on plonge dans l'eau, quand on plonge dans un liquide acide, dans un liquide basique. On va regarder ce qui se passe quand on le chauffe, qu'est-ce qui se passe quand on le refroidit, qu'est-ce qui se passe quand on pèse sur lui, quand on l'étire, etc. Et donc, ça va nous donner une image de l'objet et éventuellement, en regardant les caractéristiques de cet objet-là, on va comparer avec une archive ou avec une réserve, etc., d'informations, des data qu'on a. On va dire, ah, ça contient du cuivre et puis c'est du manganèse, ou, etc. Et là, c'est, je sais pas, un truc élastique ou quoi. Donc, on va peut-être savoir de quoi il retourne. Alors, le Midrash Rabbah, il fonctionne un peu sur ce modèle-là. On prend en général un passouk des Ktuvim. Des fois c'est les, à l'extrême, des fois c'est un passouk dans Dvarim. Dvarim a un certain statut différent par rapport aux trois, aux quatre autres livres de Moshe, du mot de la Torah. Et à partir de l'analyse, enfin, de ce qu'on entend, de ce qu'ils veulent lire dans le passouk de Ktuvim, ça va permettre éventuellement d'éclairer, on va l'utiliser en quelque sorte pour bombarder, si vous voulez, le passouk qu'on veut étudier. Alors lui commence par utiliser un passouk dans Michelet. Donc ce passouk de Michelet, il dit que par rapport à un davar, par rapport à quelque chose ou par rapport à une parole, ben, ça dépend maintenant si cette parole est une parole d'Elohim, alors la gloire divine impose de cacher cette chose ou cette parole. Et la gloire de la Torah, hein, c'est justement d'étudier la Torah, de creuser, de travailler. Et donc on va appliquer ça à notre verset. Voilà, donc c'est avec ça qu'on dit Patar. Voilà, il a commencé l'étude en amenant ce verset-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rav Lévi, Bechem Rav Chama, Bar Chanina, Amar, Sefer, depuis le début du livre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis Bereshit jusqu'à Vehineh Tov Me'od, tout ce texte-là, je lui applique Kvod Elokim Aster Davar. Mikan Ve'elah, pour tout le reste de la Torah, j'applique la deuxième partie de Michelet. Kvod Melachim, c'est le Kvod de la Torah, Chakor Davar. C'est-à-dire, il dit Kvod Divrei Torah, Shenim Shelu Bemelachim. Donc, le Midrash nous dit pourquoi on a utilisé Melachim au lieu de dire Kvod Torah, on aurait dû dire, non? Chakor Davar. Alors, c'est parce qu'il y a un passouk, c'est un passouk de Michelet aussi d'ailleurs, qui dit Bim Melachim Imlochu. Avec moi, les rois vont régner. Ou par moi, grâce à moi. Alors, du coup, ça veut dire que, puisque les rois ne règnent que grâce à moi, d'une certaine manière, qu'on dit Melachim, c'est dire la Torah. Ça fait référence à la Torah. Et là-dessus, l'achor d'avar, là, il faut étudier, creuser le sujet. Voilà le premier paragraphe, donc. Donc, qu'est-ce que Rabbi Lévi nous dit? Ben, il est en train de dire que, premièrement, jusque-là, ça a un certain statut, et le reste de la Torah a un autre statut. Et jusque-là, ça s'appelle Kvod Elokim. Donc, ça veut dire, c'est comme si, au fond, ce qui nous est dit depuis Bereshit jusqu'à Tov Me'od, c'était quelque chose qu'il faut cacher parce que c'est quelque chose qui concerne Elohim quelque part. C'est comme si, bon, c'est vrai que dans cette création, il y a aussi un homme qui qui est créé. Mais le sujet, c'est un sujet qui concerne Elohim. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur la place publique. En général, quand on dit qu'il faut cacher quelque chose, c'est la démarche des Chachamim, quand ils cachent quelque chose, parce qu'ils pensent que les gens ne peuvent pas entendre le commun des mortels, si vous voulez, la race moyenne, ou peut-être nous, tout le monde, ne peuvent pas entendre vraiment la chose sans la déformer. Quand ils vont l'entendre, ils vont l'interpréter, la déformer. Alors, par exemple, on pourrait se dire que pourquoi en vérité il faut cacher? Parce qu'il y a des gens qui vont s'imaginer que ce texte-là, depuis Bereshit jusqu'à Tov Me'od, c'est le récit de la création du monde. Rashi a dit que les crétins qui pensent que c'est la création du monde, c'est des crétins. C'est pas le récit de la création du monde. Par exemple, il y a aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? D'abord, il y a le premier mot, Bereshit, c'est un mot qui n'existe pas dans la Torah. Bereshit, ça n'existe pas ailleurs dans la Torah que là. Déjà, quand on a un mot qui commence un texte par un mot qui n'existe nulle part ailleurs, c'est déjà un peu compliqué. Donc, tout ce que ça veut dire ici, ça doit être caché parce que les gens ne sont pas capables d'en faire quoi que ce soit d'intelligent. C'est la gloire divine qui se, quelque part, par le kavod qu'on doit à Elohim, c'est de cacher la chose. Par contre, dans la suite, et la suite c'est remarquable, c'est immédiatement après ça. Immédiatement après. Ça veut dire qu'on n'a pas ici le partage que Rashi ramène, où on dit que toute la Torah aurait dû commencer à Chodesh HaZeh. Et donc, ça veut dire que tout le Sefer Bereshit et le début du Sefer Shemot, ben, on se demande pas, on commence par se demander, mais à quoi il sert? Bon, et on nous dit, là, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a dévoilé des choses dont on a besoin, dont on a besoin de les avoir pour comprendre ce qui va venir après. Parce que sinon, tu parles de la sortie d'Égypte, d'un peuple, etc. Qui sait ce peuple, où il vient, etc. On ne sait rien du tout. Si on avait commencé à Chodesh HaZeh, qui sait l'Achem? C'est, d'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a donné le Sefer Bereshit et le début du Sefer Shemot pour qu'on comprenne ce qui va venir après. Donc, c'est toujours aussi, là-bas, c'est pas marqué, pour l'instant, on n'a pas vu que ça soit sous le signe d'Aster d'Avar, pour cacher. Non, c'est au contraire, Hachem l'a donné. Le problème ici de ce texte, c'est que c'est bien joli de dire Aster d'Avar, mais c'est écrit, il est écrit ce texte, on nous l'a donné. D'accord? C'est-à-dire, Aster, ça veut dire, c'est pas que c'est caché, c'est nous qui devons le cacher. Qui est-ce qui doit le cacher? Ben, les gens qui sont capables de comprendre quelque chose, ils doivent considérer que c'est le kavod d'Elohim que de le cacher. Donc, les Chachamim qui comprennent quelque chose à ce texte de Bereshit jusqu'à Tov Me'od, ces gens-là sont en charge par kavod. Le kavod d'Elohim, le kavod du roi, le kavod d'Hachem, donc, c'est, cache-le, c'est-à-dire, n'en dis rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est caché, c'est pas le texte, il est là. Mais caché, ça veut dire, justement, par opposition à Hakor Davar. C'est pas un sujet de recherche. En tout cas, pas pour tout le monde. Mais que la Torah, elle est à la disposition de tout le monde. Et c'est un sujet de recherche. Tout le monde est concerné par Raccord d'avare, tout le monde doit chercher. Alors, bien sûr, d'abord ceux qui sont capables, et puis il faut une Torah, elle, c'est de la Torah. La Torah, elle doit être diffusée, elle doit être enseignée, elle doit être mise à la portée des gens selon leur capacité de compréhension et de. Mais bon, là-bas, il faut s'investir vraiment. Donc, c'est la première chose que. C'est ça que dit Rabbi Lévi, je pense. Et donc, il a pris ce passouk de Michelet, parce que ce passouk de Michelet, il a deux parties, et chaque partie traite justement de. Une partie traite de, justement, de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire. Kol davar, kol asher asa, le tov meod, etc. Et bien ça, et donc, ce passouk-là, il était tout à fait adéquat pour travailler notre sujet. C'est la première chose, pour l'instant, que. On va garder de ce texte. Deuxièmement, s'appelle Davar Acher, autre chose. Toujours sur ce même passage. On va donc toute la paracha, ici, tout le chapitre 9, ici, cette paracha 9, et numéro 9, elle est consacrée à ce seul verset-là, au travail sur ce verset-là. Là, cette fois-ci, c'est Rav Tanhuma qui ouvre la discussion, et lui, il prend appui, il l'utilise comme outil, comme Rav Lévi a utilisé Michelet. Lui, il utilise un passouk, un verset de Kohelet, un verset de, en français, ça s'appelle Ecclésiaste. Ouais. Alors, voilà le verset de Kohelet. Et Hakol Asa Yafé Veito. Tout, il l'a fait, c'était bien en son temps. Voilà, je n'ai pas pris mon téléphone. C'est vrai, je n'ai pas pris. Ouais. Bon, peut-être ma femme va ouvrir. Voilà, on a un nouveau verset. Et Hakol Asa Yafé Veito. Il a tout fait, et c'est très bien, c'est Yahvé, c'est beau, en son temps. Veito. Bon, un peu plus. Tu sais t'en servir là. Sur le numéro 2 de. Dans le passouk de Kohelet. On parle de Hakol, tout, donc ça correspond peut-être au col qui est dans le verset. D'accord? Il a fait, donc, Kol Asher Asa. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est Yafé. Donc, Yafé par rapport à Tov, éventuellement c'est bon. Mais l'important, la nouveauté ici, c'est Be'ito. En son temps. Ça veut dire que, chaque chose a un temps. Et la chose, elle est yafa, elle est belle, quand elle est faite en son temps. Alors, c'est tout à fait dans la façon de parler de Kohelet, puisque c'est Kohelet qui dit qu'il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, etc. Donc, lui, il travaille sur la notion de temps. Amar Rav Tanhuma, Ve'onato nivra ha'olam. Le monde a été créé en son temps, on va voir. C'est-à-dire, lohaya ha'olam raoui li barot kodem lachen. Le monde n'était pas adéquat, il n'était pas prêt pour être créé avant cela. Donc, il dit, en s'inspirant le verset de Coëlette, on entend ici que le monde est créé. Quand, si c'est Tov Me'od, si c'est parfait, ça veut dire que c'est exactement en son temps. Et donc lui, il introduit une nouvelle notion qui est que le temps a été, que le monde a été créé au bon moment. Ça veut dire qu'il a été créé au bon moment. D'abord, il y a une difficulté, c'est que nous, on pense que le temps, lui aussi, il a été créé. Donc c'est pas du tout qu'on a, on a un temps et à un certain moment, il y a création dans le temps du monde et que c'est le bon temps. C'est ensemble. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas résolu. Le dire que c'est en son temps, comme si le temps était indépendant du monde, c'est un peu de la création du monde, c'est un peu compliqué. Mais alors, Rabbi Abaou, il dit, Mikan, de là, ça veut dire, à partir du moment où on parle comme Rav Tanchuma l'a lu, alors, au lieu de dire, enfin, pour dire que le monde a été créé au bon moment, si on peut parler comme ça, alors il dit, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a yaboré olamot umachrivan. Que Hachem créait des mondes et les détruisait. Il créait des mondes et les détruisait. Ad Shebara et Elou, jusqu'à ce qu'il crée cela. Alors là, il y a un pluriel incompréhensible. Pour l'instant, c'est assez incompréhensible, d'autant que il va le dire en araméen, et en araméen, il va le mettre au singulier. Amar, il a dit, donc Hachem a dit quand il a créé une suite de mondes, créé, détruit, et à un moment donné, il en a créé un. Il a dit, ah, Din Anianli, celui-là, il me plaît, il me convient. Yaton, les autres, Lo Anianli, les autres, ils ne me conviennent pas, ne me plaisent pas. Alors, Amar Pinchas, il a commenté ce que Rabbi Abaou a dit. Et il a dit, Ta'ameh de Rabbi Abaou, la raison pour laquelle Rabbi Abaou a dit ce qu'il avait dit, ce qu'il a dit, ici, c'est parce que justement, il a pris ce que Rav Tanchuma a dit pour en déduire qu'il y a eu création de plusieurs mondes jusqu'à ce qu'on arrive au bon monde. Et, donc, c'est parce que il s'est inspiré de notre verset, justement, notre verset qui dit, Vayar Elokim et kol asher asa vein et tov meod. Din, hanyan li, yaton, lo hanyan li. Il a traduit le verset qui dit, Vehine tov meod, et voici, c'est très bien. Ça veut dire, celui-là me plaît, les autres ne me plaisent pas.
Qu'est-ce que ça veut dire? Dire ça veut dire qu'il aurait fait des choses qui ne lui plaisent pas. Est-ce qu'on peut comprendre, pas très bien, qu'Hachem fait des choses qui lui plaisent, qui ne lui plaisent pas?
Je crois que quand on réfléchit comme ça, il faut peut-être pas maintenant réfléchir en disant que Hachem, tout ce qu'il a fait, c'est immédiatement tout de suite bien, etc. Sinon, on n'a rien à dire. Donc, le problème, alors, tu pourrais me dire, ben justement, est-ce que Rav Lévi n'a pas dit que Aster David, cache-le, n'explique pas. On avait dit qu'il ne fallait pas expliquer. Maintenant, ils sont tous en train d'expliquer. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent qu'ils savent. Ce qu'il fallait pas, c'est Aster pour les autres gens. Et continuer de l'expliquer avec notre langage à nous, entre nous, avec des choses que le commun des mortels ne va pas obligatoirement comprendre. Alors, c'est quoi cette idée de comment il a senti Rabbi Abaou pour expliquer son histoire Barra Olamot et Friban, et puis tout à coup celui-là il nous plaît. Parce que ça va être beaucoup discuté dans le paragraphe d'après, mais il faut entendre dans ce verset, Vayar Elohim et kol asher asa, et puis Tov Meot. Il a regardé ce qu'il avait fait, c'est Tov Meot. Qu'est-ce que fait ce mot de Vériné? Et voici. Quand on dit et, bon, il y a le et voici. Donc il faudra travailler le et le voici. Mais voici, iné, ça veut toujours dire quelque chose arrive, advient, qu'on n'attendait pas. Veriné, tov meot. Donc c'est, alors Rabbi Abaou, il a compris. Veriné, ah, en voilà un qui me plaît. Comme ça qu'il a compris que ça voulait dire que ben, il y en avait d'autres qui me plaisaient pas, et celui-là, il me plaît. Alors, quel est le critère pour décider ça me plaît, ça me plaît pas? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, si on dit comme ça, il doit y avoir un critère pour dire celui-ci me plaît, les autres ne me plaisent pas. Ça veut dire qu'il y a, les autres étaient différents. Quand il a créé des mondes, ça veut dire qu'il crée une suite de mondes. Et puis on va regarder lequel convient. Donc, premièrement, ça veut dire que la création, enfin, créer des mondes, c'est pas du tout. Il a créé un monde, ça veut dire, c'est une espèce d'opéra, c'est presque un processus de création de monde. Et que ça veut dire plusieurs mondes peuvent être créés. Alors peut-être on peut ajouter la chose suivante. Ça va être utile aussi par la suite. Bon, vous savez bien que on dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en regardant la Torah. Ça veut dire qu'a créé que Akadosh Baruch Hu, il a d'abord créé la Torah. La Torah que Hachem a créée, c'est pas la Torah telle qu'elle est écrite dans le rouleau de la Torah ici. Le Rambam dit que la Torah, d'en haut, c'était une suite de noms divins. Suite de noms divins sans, ils sont écrits les uns à côté des autres sans qu'il y a de scansion, c'est pas du tout partagé, il n'y a pas ce nom-là. Mais c'est une suite de noms divins. Qu'est-ce que ça veut dire des noms divins? Les noms divins, ils servent à nous. Bien entendu que Hachem n'a pas de nom, mais ce qu'on appelle les noms divins, c'est ce qui nous permet de décrire la façon dont Hachem gouverne le monde. À ce moment-là, il gouverne le monde de cette façon-là, avec rigueur, cette fois-ci avec tendresse, cette fois-ci, etc. Toutes ces choses-là, rigueur, tendresse, ça, ce ne sont pas du tout des attributs d'Hachem. D'accord? Voilà, tout ce qu'on en sait, nous, c'est que le monde est gouverné de cette manière-là. Mais rien ne nous permet, à partir de cette gouvernance, ces différentes formes de gouvernance du monde, de remonter pour pouvoir dire quelque chose sur Hachem. Quand on voit quelqu'un qui agit de telle et telle manière, en général, on peut dire, on va peut-être remonter, ça va peut-être nous aider, on va pouvoir dire un peu, oh, ça correspond à sa personnalité, etc. D'accord? On peut décrire à quelqu'un, au lieu de décrire de l'intérieur, on peut décrire en regardant sa façon d'agir. C'est une façon de le décrire
À travers ses œuvres.
à travers ses œuvres. Ouais. Et là, on peut pas décrire. Il faut bien savoir, on peut rien dire sur Hachem. En particulier, ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Toutes ces questions-là, c'est des choses qui, ces mots-là servent aux créatures, mais pas aux créateurs. Tout ce qu'on dit sur le créateur, c'est des abus de langage. Simplement ce que À la Torah, elle parle le langage des hommes pour qu'on comprenne quelque chose, parce que on peut pas parler. Il n'y a pas de mots qui correspondent à Hachem. Les mots, c'est fait pour désigner des choses qui se répètent, comme une tasse. Bon, toutes les tasses s'appellent tasse. Il n'y a pas, donc, il n'y a pas de nom. Donc, en tout cas, mais Hachem a regardé la Torah. Or, la Torah telle qu'elle était, telle qu'il l'a écrite, cette Torah, elle peut se réaliser dans le monde de toutes sortes de manières. Et donc, quand on dit que Hachem a créé des mondes et les a détruits, c'est-à-dire que on a mis en marche la réalisation des mondes en fonction de telle et telle manière. Alors, si je devais décrire, je dirais, c'est comme si on avait dans la Torah, qui est évidemment infinie, c'est la longue des listes des noms, alors c'est infini. Alors, c'est comme on a pris une certaine tranche, donc c'est comme si on a pris, disons, 13 noms divins. Je serais Midot, ouais. On a pris 13 des noms divins, et puis avec ça, on a créé le monde. Et bon, alors le groupe de 13 qu'on a pris, il n'était pas bon. C'était pas suffisamment stable, c'est trop gentil ou trop. En tout cas, les créatures créées de cette manière-là, elles font pas ce qu'Hachem attendait. Ça correspond pas. Et tout à coup, celui-là, il marche. Celui-là, cette combinaison des Shloshesre Midot, mais même les Midot elles-mêmes qui sont des mesures. Alors, c'est pas des mesures d'Hachem. C'est pas des mesures d'Hachem, c'est 1 m 50, 1 m 15, etc. Mais c'est néanmoins, comme on dit en français, on va prendre des mesures. C'est pas du tout qu'on va mesurer quoi que ce soit. On prend des mesures, ça veut dire on va prendre des décrets, des décisions, etc. Voilà, ben c'est aussi, c'est un peu comme ça. Et on peut dire que, par exemple, si on prend l'exemple des Shloshesre Midot, il y a les Shloshesre Midot de la Torah, mais il y a aussi Shloshesre Midot dans le prophète Micha. Et le Tomer Dvora qui commente les 13 Midot, il a commenté celle de Micha et pas celle de la Torah. Les kabbalistes, ils disent que c'est la même chose. Mais pour le commun des mortels, c'est pas la même chose. Et eux, ils disent, ça se recoupe. Moi, quand je regarde, je vois pas que c'est la même chose. Je suis pas tout seul. Mais certainement, s'ils le disent, c'est que c'est comme ça. Mais c'est compliqué. Donc, on voit très bien que même l'idée d'en prendre 13 noms, ben, il y a au moins deux façons de prendre. Et alors, on peut dire qu'elles sont équivalentes, bien qu'elles n'utilisent pas exactement les mêmes termes. Donc, on voit bien que c'est comme si on n'utilisait pas les mêmes noms, pas les mêmes noms divins. Et entre le nom divin et la réalisation de ce nom divin dans un monde concret, il faut passer par toutes sortes de stades, de cet épaississement du nom divin qui est un peu complètement abstrait, etc. Ça devient de plus en plus concret pour donner le monde matériel dans lequel nous sommes, donc duquel nous sommes, quoi, dans lequel on en est une partie. Donc on peut imaginer comme ça cette idée de Bana Olamot Be'Chrivan. Alors c'est pas du tout que il a fait des choses qui finalement ne lui ont pas convenu. Ça veut dire peut-être que ça fait partie de la notion de création d'un monde que d'en créer d'autres qui marchent pas. C'est que donc ça visiblement pour arriver à quelque chose, d'accord, il faut qu'il y ait des échecs, si vous voulez. Cette idée que du négatif doit être là avant le positif, c'est à l'œuvre. Il a fallu l'esclavage en Égypte pour produire le clan d'Israël. Il a fallu les épreuves d'Abraham pour produire Abraham. Donc, systématiquement, on a besoin de quelque chose. Ça fait partie des secrets du monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de négatif pour produire pour en sortir et positivement? Alors, bon, c'est difficile d'interpréter les situations, mais la destruction du Beth Amikdash, elle a entraîné l'exil en Babel, et l'exil de Babel, il a fini par produire le Talmud Bavli un peu plus tard. Et nous, on vit là-dessus. On vit sur quelque chose qui a été produit, non pas en Eretz Israël, où on pourrait imaginer que, bon, alors on a produit le truc extraordinaire, on avait toutes les cartes en main. Il y a un Talmud Yerushalmi, mais d'abord, il n'est pas complet. Et nous, on ne vit pas d'après ça. Tosfot, il a dit que nous, on est tous des Babyloniens. T'es un Babylonien, toi. C'est comme ça n'a pas l'air de te plaire, mais t'es un Babylonien.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion quand même de dans l'échec ou dans le
Non, mais c'est peut-être pas, il faut
non,
peut-être, j'ai utilisé le mot échec, c'est pas bon. Parce que, on voit très bien que les processus de végétal, par exemple, il faut que la graine, elle pourrisse pour qu'elle donne, tu mets une graine, elle est en bon état, mais elle va rien donner du tout si elle se décompose pas. Donc, on voit très bien qu'il faut passer par un stade où si le paysan, il ouvrait la terre au moment où elle est quoi, il dit, je me suis enlevé du grain de la bouche pour le mettre en terre, et tout ce que j'ai, c'est un truc qui a pourri.
enfin, ça, c'est une vision, pardonnez-moi, mais enfin, c'est sûr que vous parlez à des biologistes, ils ne vont pas vous le dire, c'est du pourri. Ils vous disent, c'est le processus.
Mais oui, mais
Et il y a.
c'est un processus qui, extérieurement, a l'air d'un processus celle d'une décomposition, c'est sûr que c'est une décomposition. Et il y avait quelque chose de complexe qui est maintenant réduit à des éléments séparés. C'est pas, j'ai dit pourrissement, c'est pas un négatif, pourrissement. C'est le processus normal de passer par une destruction de ce qu'on avait.
Mais on reste dans le même système. Il me semblait que à travers les noms que vous avez cités, nous, le monde qui marche mal, c'est quand l'homme utilise mal son libre arbitre.
Mais les
Mais le
mondes qui n'ont
monde
pas
qu'Hachem crée,
marché,
c'est un monde
bah,
parfait.
nous, notre monde, il n'est pas parfait. Mais il lui convient. Celui-là, il me convient. Anaya, ça veut dire, ça me convient. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il est ce que je veux. Mais on ne sait pas en quoi les autres mondes n'étaient pas adéquats. Lui, Tanhuma, il a dit, il n'était pas prêt à être. Le monde ne pouvait pas être créé plus tôt. Donc, ce qu'on a créé avant lui, c'était des mondes qui ne pouvaient pas vivre, quoi. Ils pouvaient pas, n'étaient pas satisfaisants. Pourquoi? Et lui, il met ça dans le fait, il dit, bah, chaque chose a son temps. Ce que ça veut dire, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça veut dire que il y a un facteur temps, disons. C'est peut-être autre chose, mais
Il cherche à quoi? À savoir ce que vient nous apporter Véliné Doméol. Et ça, c'est un sujet à lui. Pourquoi il y a cette phrase, Véliné
oui.
Doméol? C'est ça qui sert. Donc après, il part en disant, ben, c'est qu'il y en a eu d'autres. Bon, ok, bon.
Non, il.
Ben, oui, c'est ce qu'il nous dit. C'est que nécessairement, il y en a eu d'autres. Bon, et après, il dit, et les autres étaient moins bien. Et pourquoi les autres ont été moins bien? Qui
Mais
nous
ça,
dit
on n'a
qu'il y en a
pas
d'autres?
dit, c'est toi qui dis que c'était moins bien.
Non,
Il
mais
dit seulement, non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Il a dit ça me convient, ça me convient pas. Et la preuve, c'est qu'il a gardé celui-là, il n'a pas gardé les autres.
qu'est-ce qu'on enseigne?
Lui, il le dit, c'est ça
Ah,
qu'on dit.
d'accord. Oui, d'accord,
Mais on est dans ce monde-ci. Il a deviné, ça veut dire, tout à coup, semble-t-il pas, et donc il a compris, parmi tout ce que j'ai créé, ah, c'était jamais satisfaisant, ah, celui-là, voilà. Celui-là, il me convient. Cette composition de nom divin, par exemple, on peut dire de cette manière-là, me convient.
Est-ce qu'il est envisageable de dire que les mondes qui auraient été créés sont dans le temps de cette création-là. C'est-à-dire, pour être un petit peu plus clair, ça veut dire, bon, Yom Rishon, OK, il a créé, mais maintenant que, donc, il y a de la matière, il y a des mondes, et que là-dedans, dans ce temps-là, ont été créés des mondes, ont été définis des mondes.
Non, ça, c'est pas comme ça qu'il le lit. Mais toi, tu peux lire comme tu
Non,
veux,
non,
mais
c'est une
c'est
question,
pas comme ça. Non, c'est
je
pas du
parle
tout
de question
ça. Le
de...
processus de Kol Asher Asa, ça forme un tout. Donc, si tu veux, c'est pas que le premier jour, il y a eu d'autres mondes et qu'on a choisi celui-là. Premier jour, il y a une partie du processus de création. On sait pas du, ça correspond pas du tout à des mondes. Bon, c'est ni un ordre chronologique, ni rien du tout. Il y a eu de cela. Il y a eu. Donc ça, c'est la deuxième lecture de celle de ce Midrash. Et alors, on peut se demander qu'est-ce que cette deuxième lecture apporte quel est le complément que donne cette deuxième lecture par rapport à la première lecture. Alors, la première lecture, c'était de dire que il y a des choses qui doivent être cachées, et en l'occurrence, tout ce qui a été dit jusque-là doit être caché. C'est-à-dire, il ne faut pas creuser. Mais à partir de là, au contraire, il faut bosser. Et maintenant, le deuxième dit, alors voilà, si maintenant on va travailler, d'accord, ça veut dire que, en réalité, on va quand même dire quelque chose. Non pas de ce qu'il y a entre Bereshit et Tov Me'od, mais même de ce qui est avant, éventuellement, Bereshit, avant la création de ce monde-ci, pour qu'on comprenne que ce monde-ci, il advient dans le cadre de une création un peu presque continue de mondes qui sont détruits au fur et à mesure. Et dont on peut penser que ils ont en particulier le défaut de ne pas être au bon moment, en quelque sorte. Le nôtre, là, il est au bon moment, d'après Rabbi Tamkoun. Il arrive à son moment, comme si il y avait un problème de mûrissement, c'est difficile à dire. Alors, est-ce qu'on peut aussi laisser en question ces mondes qui ont été détruits? Est-ce qu'ils ont laissé quelque chose? Est-ce que quelque chose de ces mondes détruits passe d'un monde détruit à l'autre monde qui est détruit? Puis, finalement, est-ce qu'il y a la trace dans notre monde des mondes détruits? Alors si, bon, si. Une des raisons pour lesquelles c'est important de dire qu'il y avait des mondes avant celui-ci, c'est que dans la Torah, plusieurs fois, Hachem dit, je vais détruire le monde. Donc on voit très bien que, voilà, c'est Hachem dit, voilà. Le monde que j'ai fabriqué, il n'est pas bon, quoi. Je vais le détruire. Et il dit à Moshe, je vais en construire un nouveau avec toi. Et donc, il y a eu des. Finalement, ça n'a pas été détruit, mais non seulement ça, il y a cette idée d'une destruction, mais en plus, Hachem a dit à Noach. Il lui a fait une alliance dans laquelle il lui a dit, je n'enverrai plus de déluge pour détruire le monde, mais je vous enverrai quand même un signe qui vous dira que vous en êtes à une situation où si j'avais pas fait cette alliance, il m'empêche de détruire le monde, j'aurais détruit le monde maintenant. Donc ça veut dire que quand on voit cette espèce d'arc-en-ciel un peu spécial avec c'est pas l'arc-en-ciel standard, mais ce signe-là, c'est une façon de dire au monde, sachez que vous êtes gravement disqualifié. Et si ce n'était que je m'étais engagé à ne pas détruire le monde, je l'aurais détruit. Bon, et ensuite, on voit très bien, je vais recommencer avec Moshe, je veux dire. Donc, on voit très bien que l'idée de destruction de monde est une idée de ce monde. Si vous voulez, c'est un monde dans lequel il faut penser le monde pourrait être détruit, ou le monde mériterait d'être détruit. Il ne l'est pas parce que Moshe Rabbeinu va prier. Bon, c'est bien sûr Hachem qui lui donne l'occasion de prier, mais si Moshe n'avait pas prié, il se présentait comme ça. Si Moshe, non seulement il prie, mais il joue le tout pour le tout, puisqu'il dit à Hachem, ou bien tu nous pardonnes, ou bien tu peux m'effacer, moi, de ton livre. C'est-à-dire que non seulement je ne suis pas candidat pour qu'on construise un monde à partir de moi, mais je veux même pas, il n'y a rien, c'est tout. Tu leur pardonnes pas. Donc c'est bon, c'est une drôle d'idée que, comment est-ce qu'il peut parler comme ça à Hachem, mais en tout cas, c'est bien ce que la Torah nous enseigne. Donc la Torah nous enseigne que les mondes sont destructibles. Un monde d'Hachem est destructible. Et que ça veut pas dire que Hachem s'est trompé ou non, ça fait partie du processus. Et donc, il y a eu, peut-être que nous dire qu'il y a eu d'autres mondes détruits, c'est pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé au déluge et ce qui pourrait se passer par ailleurs. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait spécial à ce monde-ci. Ça fait partie du processus création des mondes, création de mondes. C'est que, bon, ça peut s'arrêter, ça.
Oui. D'accord, que il y a la présence humaine.
Mais il y avait déjà la présence du
Alors,
monde.
est-ce que
Ah, là, on n'en
comment
sait rien. On ne
on
sait
sait?
pas. C'est rien.
J'en sais rien.
C'est rien, c'est tout. Non, on n'est pas d'accord. On n'en sait rien. Et ici, dans ce monde-ci, Hachem a créé un truc avec un monde dans lequel il se trouve qu'il y a des hommes. Mais ici, on ne nous dit pas que c'est parce qu'il y a des hommes que ce monde-là est adéquat. Et le monde lui-même, en tant que tel, tout ce que j'ai créé. Ici, le fait qu'il y a dans ce qui a été créé dans les 6 premiers jours, ça contient un homme, c'est pas mentionné du tout pour l'instant. D'accord? On ne s'occupe pas du tout du détail de ce qu'est le monde. Alors donc, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre à portée de tout le monde. Et il y a cette destructibilité des mondes et l'adéquation de notre monde qui est, bon, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est vraiment au bon moment. C'est en son temps. Mais c'est un temps du monde, Ito. C'est le monde a, toute chose a, comme si on disait que toute chose a un temps. Et le monde a un temps. Et c'est un temps, comme on pourrait dire, c'est un processus de mûrissement ou un truc comme ça. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, qui est beaucoup plus long. Ça va à faire, toujours sur ce même verset. C'est Rabbi Yochanan qui parle d'abord, et on sait donc quand Rabbi Yochanan parle, il va y avoir Rish Lakish, toujours le couple. Rabbi Yochanan parle et il dit, Melech Bassar Vadam, Bonnet Palatine, quand un roi de chair et de sang construit un palais, Mabit Ba'elyonim, As Riachat, ou Betachtonim, Riachat. Aval HaKadosh Baruch Hu Mabit Ba'elyonim, ou Betachtonim, Riachat. Rabbi Yochanan, il dit, les humains, ben, ils voient les choses partiellement. Ils voient ou bien le premier étage, ou le deuxième étage, ou le rez-de-chaussée, mais ils voient pas le tout. À Kadosh Baruch Hu, ils voient le tout en même temps. Donc visiblement, ce qui semble motiver Rabbi Yochanan, c'est être kol asher asa. Tov, Hachem avait déjà dit que c'était Tov sur chacun des jours. Mais maintenant, un regard sur la totalité, ensemble, ça c'est nouveau. Et ça c'est particulier à Hachem. Seul Hachem peut avoir une vision de la totalité. L'être humain, par définition, il ne voit, il n'a qu'une fenêtre sur une partie des choses. Donc ça, c'est ce que fait remarquer Rabbi Yochanan. Alors Reish Lakish lui dit, mais la suite du verset, toi tu t'es en quelque sorte, tu t'attaches au kol asher asa. Mais c'est marqué Hine Tov Meod. On a dit, c'est quoi de quoi on parle ici? On parle de Olamazé, Zé Olamazé. Veine Tov Meod Zé Olamaba. Et à Olamazé, Ve à Olamaba, Ibit Baen Akadosh Baruchu, Ria Achat. Et Rabbi Shimon ben Lakish, Beshem Rabbi Lazar ben Azaria Omar, Aho, ça dit un pasuk de Yirmiya, Aho, Hashem Elokim, Hine, Ata, Asita et Hashemayim et Haaretz, Bechochacha Gadol, Bizroacha Antuya, Lo Yipaleh Mimcha Davar. Mais Ota Sha'a, Lo Yipaleh Mimcha Davar. Alors voilà ce que dit Reish Lakish. Si je comprends bien. Reish Lakish, il dit, ce qu'Hachem a créé, quand on dit, il a kol asher asa, ce qui est la description de, c'est Olam Hazeh, ce qui est décrit, c'est Olam Hazeh. Il n'y a rien dans la description de, jusqu'à maintenant, depuis Bereshit jusqu'à Vinei Tov Meod, rien qui concerne Olam Haba. Mais, dit Reish Lakish, si on fait attention au texte, le hiné, il ne vient pas comme ça. C'est pas hiné, c'est marqué v'hiné. C'est-à-dire, il y a hiné et aussi quelque chose. Et voici. Alors, voici, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est nouveau parce que c'est seulement maintenant qu'il y a une vision de la totalité. Jusqu'à présent, c'était une vision partielle. C'était décrite. Et maintenant, on a une vision de la totalité de Olam Hazeh. Reish Lakish, il dit, Vehineh, ça veut dire, faut comprendre que quand Hachem a créé Olam Hazeh, il a créé aussi Olam Haba. D'accord? Mais il arrive avec un vav de l'ajout, en quelque sorte. Il y a Olamazé et Olamaba. C'est-à-dire que c'est un hiné qui, c'est non seulement quelque chose qu'on n'attendait pas, mais quelque chose qui, même après coup, même quand on le voit, ben, il y a beaucoup plus que ce qu'on voit. Beaucoup plus, il est. C'est comme si quelque chose de plus que ce qui a été créé se trouve créé aussi. On l'a masé, ça c'est écrit, mais en même temps, il y a Olam Haba. Ça c'est ce que dit Reish Lakish. Alors Reish Lakish, c'est un peu gonflé ce qu'il dit, parce que d'où t'as pêché qu'il y avait Olam Haba? Alors il prend appui sur un Tana. Il cite Rabbi Elazar ben Azaria. Et qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria lui-même a été d'Oresh? Il a été d'Oresh un passage dans Yirmiya. Où Yirmiya, il dit, mais Hachem, tu as créé le monde et tu l'as créé, Bechorara Gadol, Bizroa Netuya. Du coup, tout est possible. Loi Palem Imchadavar. Rien ne t'empêche de faire ce que tu veux. Donc on voit que Rabbi Elazar ben Azaria a compris que à partir du moment où Hachem est le créateur, eh ben, il y a beaucoup plus que que ce qui est dit, quoi, quelque part. Tu peux faire ce que tu veux, rien ne peut t'en empêcher, rien, hein, tout est possible. Donc il dit, je prends appui sur Abhidhamma Banarsaya, c'est-à-dire que je dis pas des choses comme amorales, je dis des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer parce qu'elles reposent sur ce qu'a dit Rabbi Lazar ben Azaria. Sur la toute-puissance, en fait, d'Hachem qui est aussi sa capacité de loïpalé, c'est la chose, c'est pas, tu pourras faire ce que tu veux, mais loïpalé mimkhandava. Rien n'est pelé. Pelé, c'est rien n'est extraordinaire. Bon, pelé, c'est ben, c'est à l'envers de Aleph, ouais. C'est le 1. Alors, lit à l'envers, Aleph. Lit à l'envers, ça fait pelé, ouais. Et ça veut dire, c'est cette forme, cette unité, le fait qu'Hachem soit un, il fait ce qu'il veut, quoi, quelque part. Il est un 1 parfait. Donc, il dit à Rabbi Yochanan, son maître et son collègue, etc., toute l'histoire qui est entre les deux, dit, toi, tu as fait remarquer que Akadosh Baruch Hu, il a une vision du tout. Et moi, je dis qu'il a une vision de plus que du tout. C'est pas simplement une vision du tout, mais peut-être que c'est une façon de dire que quand on a tout, il y a plus que ce qu'on croit. Alors c'est le tout et plus que la somme des éléments qui le composent. Bon, alors ça, c'est vraiment une analyse du Passouk. Et tout à coup, il y a encore une partie. Afragai parle au nom de Rabbi Yitzhak. Il dit, il cite un passouk dans Divrei Hayamim, c'est David HaMelech qui parle à son fils Shlomo. Et il lui dit, Ve'ata Shlomo béni, da et Eloke Avicha, connais le Dieu de ton père, donc connais. Tu dois travailler pour connaître mon Dieu, quoi. Avdehu, et sers-le, velev shalem ou benefesh chafetza. Donc, il faille le servir, c'est évident. Il lui dit, mais fais bien attention de le servir, velev shalem ou benefesh chafetza. Parce que, il colle le vavot d'Oresh Hashem. Hachem, il sonde les cœurs, tous les cœurs. Vechol yetzer marchevot Il connaît toutes les, on va dire d'abord comme ça, il connaît toutes les pensées. Donc il sait très bien, quand tu le sers, il sait très bien dans quel état d'esprit tu le sers. Est-ce que tu le sers parce que tu ne peux pas faire autrement? Tu le sers pour des raisons politiques, tu le sers pour des raisons, etc. Il faut que tu sois vraiment entier dans le service d'Hachem, parce que Hachem, tu ne peux pas le tromper, il sait exactement. Donc, je te dis un secret en quelque sorte. Ne t'imagine pas que tu peux servir Hachem comme ça du bout des doigts ou du bout des lèvres. Il connaît toutes tes pensées. Et il dit, il connaît tes pensées, Kodem, avant, Ad Sheloi Notzra Marshava Belibo Shel Adam. Kvar hi gluya lefanecha, pardon, devant Hachem. Avant même qu'une pensée soit créée dans le cœur de l'homme, elle est déjà connue par Hachem. Et là-dessus, sur cette idée de la connaissance d'Hachem en profondeur, alors, il va y avoir encore maintenant deux enseignements qui vont encore plus profondément. Rav Yudan, il parle au nom de ce Rav Yitzhak. Visiblement, c'était Rav Chagai qui parlait au nom de ce Rav Yitzhak. Maintenant, c'est Rav Yudan qui parle au nom de ce Rav Yitzhak. Et il reprend et dit, Kodem Atchelo Notsar Yitzur Afraga, il avait dit, avant même que tu penses, tu as pensé déjà devant Hachem. Lui, il dit, avant même que tu sois créé, les pensées que tu auras plus tard sont déjà devant Hachem. Ça, c'est ce qu'il dit au nom de Rabbi Yitzhak. Et lui-même, Rabbi Yudan, Amar Rabbi Yudan Legamé, Rabbi Yudan pour lui-même, sans référence à un maître, il dit, et lui, il appuie ses dires sur un passouk dans Tehilim. Passouk, c'est Ki ein mila bilshoni hen Hashem yadata chula. C'est-à-dire, kodem, avant même, Hachelo yé ares le shono dibour kvar hen Hashem yadata. C'est-à-dire, même avant que la bouche puisse que hieras. Alors, c'est quoi ce verbe de hieras? Un des commentaires ici, il dit que Od bechaa she'ein mila bilshoni, avant même que je puisse, il n'y a pas encore de mots. On n'a pas inventé, j'ai pas encore, je sais pas parler en quelque sorte. Il dit qu'il hieras la paix, le pi, dans ma bouche. Parce qu'on dit, va reset dans après avoir sonné le chauffard. On chante, va d'accord? C'est donc le mouvement de mes lèvres, quoi. Et yesh me farshimota, le fi a ashurit. Il y en a qui expliquent ça, disons que c'est quasiment. Le Midrash, il est en araméen, donc, mais peut-être ils disent ça, voire avec la chourite. Vareset svatav, c'est bakeshet svatav. Quand les lèvres veulent parler, il n'y a pas de bon, c'est seulement les lèvres s'ouvre pour vouloir parler. Alors, en quoi est-ce que c'est plus que ce qui a été dit avant, quand il dit que avant même que tu aies été créé, je connais déjà, Hachem connaît déjà tes pensées, alors il dit, mais avant même que, donc, à la limite, je sais pas si, l'avantage, c'est que lui, il s'appuie sur un passouk de Tehilim. Alors que, quand il cite son maître, il dit, le maître a dit comme ça, mais il n'y a pas de, c'est pas appuyé sur un passouk d'un Tehilim. Alors, qu'est-ce que ça fait là, cette affaire-là? Alors, j'ai l'impression que il s'agit ici d'aller dans le sens de ce qu'a dit Rish Lakish. Rish Lakish, il a dit, Hachem, dès que c'est Hachem, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, il crée l'Olam Hazeh, mais en même temps, il y a l'Olam Haba. Et si, donc, eux, ils veulent dire, chez l'homme, chez l'être humain, il peut penser. Alors, David, il a dit à Shlomo, surtout, ne t'imagine pas, il connaît pas tes pensées. D'accord? Mais ça veut dire, il sait ce que tu penses. Alors, c'est pas du tout que c'est parce que tu penses qu'il sait ce que tu penses. C'est-à-dire qu'avant même que tu sois créé, il sait déjà ce que tu vas penser. Alors, t'imagines pas que tu peux le servir comme ça du bout des lèvres. Donc, c'est intéressant que David Amener, il a craint que son fils ne serve Hachem que du bout des lèvres. Pourquoi un père qui parle à son fils, il lui dit, bon, ben, faut servir Hachem. Mais lui, il lui dit pas, il faut servir Hachem. Ça, comme si, bon, c'est bien évident qu'il va servir Hachem. Mais peut-être qu'il pourrait être tenté de servir Hachem un peu du bout des lèvres. Sache que, surtout, tu n'imagines pas qu'Hachem ne le sait pas. Ça veut dire que, Mais bon, c'est compliqué parce qu'on entre dans des problèmes de. Est-ce que ça veut dire qu'avant même que tu sois formé, avant ta Yetzira, Hachem sait déjà ce que tu vas penser. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste comme liberté de l'homme, quoi? Alors ça, c'est toujours le même problème, c'est que l'homme, il est tout à fait libre. Le fait qu'Hachem sache les choses, ça n'a rien à voir avec notre savoir à nous, c'est autre chose. Alors cette idée que y a donc quelque chose. Alors ça me fait penser, j'ai lu récemment que ils se sont aperçus, scientifiques anglais, je crois, récemment, que ce que la mer pensait, un fœtus en formation, pas du tout. Au tout début de, je sais pas, au tout début de la mise en place de quelque chose qui va donner le cerveau, je sais pas quoi. Il y a une activité qui est différente selon ce que pense la mère. Ils sont allés mesurer ça et ils ont trouvé qu'il y a une différence selon ce que la mère pense. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, à quel niveau, mais ça a l'air d'être un truc. Il y a un lien tellement fort. Alors, c'est vraiment quasiment avant la Yetzira, avant que tu sois. Ben, d'accord. La pensée de la mère, elle va influer. Il va y avoir une activité du cerveau différente selon qu'elle pense, selon qu'elle est positive ou négative. Bon, c'est ce que j'ai lu comme ça dans ce que disent des scientifiques. OK? Donc ça, c'est le troisième paragraphe et comme on a fait pour les autres, on va essayer de voir qu'est-ce que vous pensez de, qu'est-ce que ce paragraphe ajoute par rapport aux deux premiers qu'on a vus. C'est quoi la nouveauté ici? Rabbi Yochanan, il a mis l'accent sur le fait que c'est complètement différent d'avoir une vision du tout. Et Reish Lakish, il a dit, c'est pas seulement une question de vision du tout. C'est que quand on a affaire à un tout, ce qu'on a devant nous, c'est beaucoup plus que la somme des éléments qui composent le tout en question. Et donc, il y a une connaissance d'Hachem, enfin, bien sûr, mais c'est-à-dire que quand il crée, ce qui en est dit, et peut-être c'est comme ça qu'il faut entendre. Ça vient dire, surtout, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre à la portée de tout le monde ce texte-là? Parce que dans ce texte, on est en train de te dire, surtout, t'imagines pas que la connaissance d'Hachem, ou etc., même la connaissance supplémentaire qui n'existe que pour lui parce qu'il est le seul à avoir la vision du tout, ça veut dire que lui comprend bien le tout. Mais le tout, c'est tout. Bon. Ici, il faut dire, c'est bien plus que le tout. C'est-à-dire que ce qu'il crée, ce qu'Hachem a créé, et qu'il regarde maintenant, et donc il dit que c'est très bien, ouais, c'est très bien parce que il y a bien plus que ce que j'ai créé, en quelque sorte. J'ai créé Onama Zeh, mais en fait, je vois qu'il y a Olamaba avec. On a l'impression que dans ce paragraphe, le fait qu'on termine par le conseil que donne David à Shlomo, ça veut dire que il faut se demander ce que ça change dans la vie des hommes de savoir ça. Ça veut dire que jusqu'à présent, on a dit ça concerne Elohim, quoi. On est en train de dire quelque chose sur Elohim. Très bien, quoi, c'est la théologie. Non, pas de théologie. L'important, c'est. Alors, qu'est-ce que tu en déduis pour ta conduite, la conduite des hommes? David Améler, ils ont fait quelque chose de cette connaissance, de cette puissance divine, en quelque sorte. C'est le fait qu'on sache que Hachem, quand il a créé bien plus que ce qu'il semble avoir créé. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui doit rester au niveau théorique, au niveau du savoir, c'est la culture générale, c'est là, je sais des choses. Il faut que ça descende de. Ça veut dire. Du coup, ça, de savoir quelque chose sur HM, ça n'a d'intérêt pour nous que si ça nous dit quelque chose sur la façon dont on va servir HM. Ça, c'est très important. Parce que c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas de la théologie. C'est pas qu'on est en train de décrire, en tout cas pas au début, on a l'impression qu'on décrit là, ce qui concerne que Hachem, finalement. Parce que, entre nous soit dit, le récit de la création, si c'était un récit de la création, bon, à part le fait que ça nous donne l'impression de comprendre quelque chose, mais autrement, ça sert à rien. D'accord? Quand on nous dit. Donc, ça ne sert à rien de nous donner le détail. La seule chose qui est importante, c'est que le monde a été créé. Parce qu'il y a un monde qui a été créé, alors ça nous crée des obligations. Nous sommes dans un monde, et il y a un patron, il y a un créateur, et donc on a, à l'égard du créateur, du balabos, du balabait, on a des obligations. Mais c'est tout. Peu importe que s'il l'avait créé en 18 jours ou en 6 jours ou en mettant ça d'abord et ça d'abord. Concrètement, ça n'a pas d'importance. Par contre, après, me raconter l'histoire d'Abraham, Isaac et Yaakov, alors dire qu'il y a des gens qui ont connu Hachem, qui sont mis à son service volontairement, etc., ça c'est important parce que ça me dit quelque chose de mes ancêtres, quoi, quelque part, de d'où ça vient ce. D'accord? Comment ça a commencé? Mais la vérité, c'est que ce qui a commencé avec Abraham, Isaac, je l'ai souvent dit, c'est que c'est passé, c'est que ça se passe en deux temps. La création du club du peuple juif, c'est en deux temps. De même que le monde a été créé en deux temps. Il a été créé en un temps jusqu'à la fin de Parshat Bereshit. Et après Parshat Bereshit, on détruit tout. Et on recommence. Maboul, ça détruit tout. Et seulement le problème, c'est, là, ça touche la question que j'avais posée au début, c'est dans la reconstruction, dans la construction du nouveau monde au temps de Noé, on a construit le nouveau monde avec des éléments de l'ancien monde. Le végétal, l'animal, l'humain, ils sont des antédiluviens. D'accord? C'est pas une création d'un monde à partir de rien du tout. Le premier monde a été créé à partir de rien du tout. Et c'est ce que je me demandais, c'est est-ce que ça vient nous dire ici qu'il a créé les mondes avant? Est-ce que quelque chose des anciens mondes qui ont été détruits se retrouve dans notre monde, en fait? Et ça touche un problème. Vous savez, il y a une Gemara qui dit que une des opinions, c'est que le monde, il va durer 6000 ans. Et après, il y a un millénaire de Shabbat. Et après, il y a encore 3 millénaires, et puis, à partir du 10e, on recommence un nouveau cycle de 10 000 ans, aussi avec 6 plus 1 plus 3. Et le Gaon de Vilna dit qu'on est dans le deuxième cycle. Nous, déjà maintenant, nous, on est dans le deuxième cycle, pas dans le premier. Je n'étais pas tout seul à dire ça. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui se passe? S'il y a un deuxième cycle, c'est pour qu'on avance un peu. Comment elle se fait l'avance? La vérité, c'est quand j'ai enseigné la première fois Sanhedrin, c'était il y a très longtemps, et depuis, j'ai dans la tête que j'ai trouvé un texte, mais je ne l'ai jamais retrouvé, je n'ai pas vraiment cherché, mais je l'ai retrouvé. Il disait la chose suivante. Il disait que dans notre monde, il y a le monde matériel et il y a le monde spirituel. Il y a donc la façon qu'on a de se conduire, disons simplement humainement, et puis il y a ce que la Torah nous demande de faire. Eh bien, quand on passe au monde supérieur, ce qui était le spirituel de ce monde-ci devient le matériel du monde d'au-dessus, avec quelque chose à inventer, d'accord, que je connais pas, d'accord, qui est pour faire encore mieux. Et donc, je m'étais raconté toute une histoire, ça, je crois que je me suis raconté ça tout seul, que ce qu'on a, j'ai un problème que j'ai, donc je répète tout le temps que je devrais le faire, mais je le fais jamais. En fait, il y a des choses qui sont écrites dans la Torah dont on nous dit que c'est des abominations. Toeva. Et c'est pas les pires obligatoirement, il y a des choses qui sont Toeva, on sait pas pourquoi c'est Toeva. Les choses dont on pense que sont Toeva, elles sont pas dans la liste des Toevantes. Et je me suis toujours demandé ce que c'était, alors je me suis raconté que les Toevot, c'est des questions qu'on n'a pas résolues qui viennent du cycle d'avant. Ça peut être joli, mais c'était aucune. Je sais pas. Ça, je crois pas que je l'ai vu. Et je pensais qu'on a une petite idée de la question. Cette idée, c'est que dans la Torah, c'est marqué tu ne tueras pas. Ouais, le tir de ça. Les Chazal disent que celui qui fait blêmir son prochain, comme s'il le tuait. Donc ça veut dire qu'il y a deux façons de tuer. Une façon de tuer où hein, tu prends ton couteau, fais la shrita, et puis il y a une autre façon, c'est de faire blêmir. Et peut-être qu'on pourrait imaginer que ce blêmir, faire blêmir, qui est ce que la Torah m'interdit, elle a aussi dit lotir tzach, mais lotir tzach, c'est évident, et il faut l'entendre, qu'il n'a pas le droit de faire blêmir quelqu'un. C'est ce que la Torah me dit. Donc on pourrait imaginer que dans un monde ultérieur, dans un cycle ultérieur, l'interdit de faire blêmir quelqu'un, c'est la base. Mais il y aurait encore quelque chose d'encore plus élaboré, etc., qui entrerait aussi dans la catégorie ne tue pas. Il ne tuera pas. Donc, quelque chose d'encore un peu plus fin. Je veux dire que parce que quelqu'un blêmit, c'est comme si on l'avait tué. Alors, c'est vrai que s'il blêmit, alors on a l'impression que le sang s'en est allé de son visage. Alors maintenant, je me disais, peut-être que c'est une façon de nous dire l'imagination, quoi. Voilà la différence entre. Mais donc ça voudrait dire que, à l'inverse, je me suis demandé, donc quel était le lotir tsar du cycle d'avant, puisqu'on est dans le deuxième. C'est-à-dire à quoi est-ce qu'on a échappé déjà? Qu'est-ce qui est considéré comme étant réglé? Quand on voit la sauvagerie c'est quoi? C'est le cannibalisme? C'est quoi? Bon, je sais pas. C'est complètement faux, toute cette histoire. Mais ça m'avait. C'est dommage parce que ça marcherait bien, quoi. Si c'est pas vrai, ça marche bien quand même. Voilà. Bon, ben on vous a pas beaucoup entendu, hein. À ce monde-ci, comme je vous ai dit, même quand je le détruis, je ne le détruis pas complètement.
Oui,
Le
voilà, c'est ça.
déluge, c'est une quasi-destruction.
Oui, voilà.
Alors, c'est peut-être ça la nouveauté, quoi. Celui-là, il est suffisamment bon pour que je puisse le quasi-détruire et pas le détruire.
Mais moi, j'ai ressenti ça ce Shabbat, pour la première fois d'ailleurs. Cette.
La question que j'avais posée, est-ce que des mondes anciens qui l'a détruit, est-ce qu'il est resté quelque chose? Comme de nôtre, il est resté quelque chose, comme de celui de détruit par le déluge, il est resté quelque chose qui a donné le monde dans lequel nous sommes.
Oui, mais
Nous,
Rav.
on est finalement des descendants d'antédiluviens.
Oui, mais Rav, le problème, c'est que ces mondes qui nous précèdent peut-être et qui ont été détruits, ils ont été détruits complètement. Il n'y a pas de réchite là. Il y a peut-être des traces, bon, peut-être,
C'est
mais.
ça la question. Est-ce qu'il y a des traces dans le nom, dans le nôtre? Et peut-être c'est ça que ça veut dire. Les autres, je les ai complètement détruits. Quand il dit ceux-là, ils ne me plaisent pas, ça veut dire ceux-là, je ne les garde pas du tout. Mais le monde est un monde qui est susceptible d'être détruit et qui est détruit, quasi détruit. Et ça continue. Quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi après le veau d'or, il dit, laisse-moi, je vais les détruire. Et je vais continuer avec toi. De nouveau, Hachem va détruire le clan d'Israël, c'est détruire le projet divin. D'accord, vous avez dit, quand Hachem détruit parce que les hommes se conduisent mal, alors pourquoi on détruit les animaux et les végétaux, etc.? Parce que comme tout ça, c'est au service de l'homme, s'il n'y a plus d'homme, eh ben, on n'a plus besoin de rien du tout.
Toute créature avait dévoyé son derrière, je crois que c'est marqué comme ça, quelque chose comme ça.
Pardon, c'est...
Toute créature, je crois, le texte dit, avait dévoyé sa voie. Je ne sais pas
Oui,
comment.
c'est ça. Oui.
Alors que.
Mais c'est les hommes qui les avaient. Les choses ne se sont pas faites toutes seules. Ce sont les hommes qui les ont forcés, qui les ont. Aujourd'hui, on aurait dit ils ont fait des manipulations génétiques ou des trucs comme ça. D'accord? Mais ils ont fait en sorte que les espèces qui normalement n'ont pas de raison de se rencontrer, ils les ont obligés à se rencontrer. Je ne sais pas ce que ça produisait. Si c'est les lois de la nature, ça ne produit rien du tout. Mais tout simplement, ils ont réussi à créer des comportements qui correspondent à rien du tout. Et il est resté quelque chose de cet interdit sous forme de tout ce qui est kilaïm, tout ce qui est des mélanges, que ce soit végétaux, dans les végétaux ou dans les animaux, on ne peut pas mélanger. Pas simplement, même pas, tu ne veux pas labourer avec un bœuf et un âne. Bon, tu es obligé de séparer. Kilaim, c'est chatness.
Détruit le monde.
Il a créé les mondes. C'est quoi exactement? Jusqu'où c'est allé ce monde qu'il a détruit?